Il y a ces symptômes bizarres survenus après un refroidissement, après le Covid. Beaucoup de personnes autour de moi m'en parlent. Et si c'était un Covid long? Mais c'est quoi, au juste, un Covid long?
Le Covid long, en fait, décrit des symptômes qui persistent après une infection au SARS-CoV-2. Ces symptômes, d'habitude, persistent plus que 3 mois. C'est ce qui caractérise un Covid long, en excluant d'autres causes. On doit aussi exclure d'autres maladies ou pathologies qui peuvent provoquer ces mêmes symptômes.
Bienvenue dans Microsciences, le podcast qui transforme certains mystères du coronavirus en réponses scientifiques et parfois énigmatiques. Microsciences, un podcast de la RTS. Maïssa Mnémé est chef de clinique dans le service de médecine de premier recours aux hôpitaux universitaires de Genève. Elle voit et elle suit des patients souffrant de Covid long depuis le début de la pandémie. Mais j'avoue que pour moi, c'est un peu flou. On ne met pas un peu tout ce qui nous arrive en vrac sur le dos du SARS-CoV-2 ?
En effet, et puis c'est vrai que le travail de dépistage et de confirmation d'un Covid long n'est pas simple. Parce que vraiment, c'est presque la première fois, ou c'est rarement en médecine, qu'on apprend en même temps que les patientes et les patients. Et donc, en collaborant avec d'autres médecins, d'autres spécialistes, des chercheurs, des chercheuses, on arrive en fait à discuter des cas, surtout quand la réponse n'est pas simple, et à essayer le moins possible de tout mettre en vrac, comme vous le dites.
Ce qui m'étonne pourtant, c'est que d'autres virus sont connus pour provoquer des syndromes post-infection. Notamment le virus Epstein-Barr, par exemple, qui cause la mononucléose. Alors, quelle différence?
Alors, aujourd'hui, on ne sait pas encore. Peut-être qu'il n'y a pas énormément de différence. Peut-être que ces pathologies, effectivement, partagent des mécanismes similaires. Mais il faut aussi se rappeler qu'on ne connaissait pas trop de ce qui se passe dans le syndrome de fatigue chronique. Malheureusement, et vraiment malheureusement, pour les patientes et les patients qui souffraient déjà de syndrome de fatigue chronique, post-Epstein-Barr, post-d'autres virus aussi, on n'avait pas beaucoup, en fait, de connaissances, ni sur la pathologie, ni sur les mécanismes, et encore moins sur les traitements. Donc on apprend.
Car la fatigue chronique, c'est l'un des symptômes les plus rapportés. Mais finalement, cette fatigue, on la ressent tous. Franchement, 2 ans de pandémie, la guerre, la crise climatique, c'est pas plutôt ça la cause de notre fatigue?
On voit qu'il y a un effet de la pandémie et que malheureusement, on risque en fait d'avoir une population de plus en plus malade. On espère que ça ne sera pas le cas, mais voilà. Après, ça c'est une chose, c'est l'effet de la pandémie. Et il y a une autre chose, c'est le syndrome de fatigue chronique. Le syndrome de fatigue chronique, on a une définition. On parle de fatigue chronique en fait quand on a des symptômes de fatigue qui persistent pendant 6 mois avec un malaise post-effort. C'est-à-dire même après un effort intellectuel ou physique léger, la personne va avoir une aggravation de ses symptômes. Je donne toujours l'exemple en fait aux patients et aux patientes à la consultation en leur disant, en fait, quand on est fatigué à cause de la pandémie, à cause de la guerre, à cause où on est un peu triste en fait, on se dit, ok, ben j'ai allé faire un tour et je me sentirai mieux. Et ça marche, des fois, mais en tout cas ça marche. La personne qui a un syndrome de fatigue chronique avec un malaise post-effort, en fait, on va lui dire, va faire un tour et elle va encore décompenser beaucoup plus.
Ah, si même la détente engendre une fatigue...
C'est un peu ce facteur qui peut différencier la fatigue générale qu'on ressent toutes et tous du syndrome de fatigue chronique. Après, se rajoutent bien sûr le sommeil, les troubles cognitifs. Donc tous ces critères sont basés sur la définition de l'Institut de médecine internationale. Mais c'est quelque chose qu'il faut aller chercher en excluant d'autres causes. Et puis il y a des échelles validées que nous pouvons effectuer. Mais il ne faut pas passer à côté en disant « Ah, mais tout le monde est fatigué ».
Message reçu. Il y a donc cette fatigue physique, mais aussi intellectuelle, avec une incapacité pour certains, certaines, à se concentrer. Et elle est visible, cette fatigue intellectuelle.
Aujourd'hui, il y a certaines études, comme par exemple au Royaume-Uni et dans d'autres endroits, qui ont montré qu'il y a quand même une modification dans l'activité du cerveau après une infection au SARS-CoV-2 et encore plus chez les personnes qui ont été atteintes de Covid long. Donc même les personnes qui étaient traitées en ambulatoire, non hospitalisées. Donc les chercheurs, dans leur banque de données, effectuaient des imageries cérébrales chaque 1 ou 2 ans. Et donc, ils avaient une banque de données d'imagerie cérébrale bien avant la pandémie. Et puis après, ils ont réinvité toutes ces personnes pour effectuer à nouveau la même imagerie cérébrale, pour comparer un avant et après. Donc, il y avait des personnes qui ont eu le Covid, des personnes qui n'ont pas eu le Covid. Puis, ils ont pu comparer leurs imageries avant et après dans les mêmes délais un peu. Et ils ont trouvé une vraie différence d'activité cérébrale chez les personnes qui ont eu le Covid versus le groupe de personnes qui n'avaient pas eu le Covid. Donc cela explique pour nous un peu, ou en tout cas nous met sur une piste, de la raison pour laquelle les symptômes neurocognitifs sont des plus fréquents, donc troubles de concentration et fatigue, et sont ceux qui persistent d'ailleurs le plus longtemps.
Fatigue et problèmes de concentration, c'est effrayant. Mais les symptômes liés au Covid long sont plus nombreux.
Alors effectivement, donc le Covid long décrit un large spectre de symptômes. Donc ça peut aller de l'essoufflement à la fatigue, à la perte de goût ou de l'odorat. Et d'où la difficulté initiale en fait de caractériser ou de décrire en chiffres cette maladie. Donc aujourd'hui, nous avons plus de recul. Les symptômes les plus fréquents restent fatigue et troubles neurologiques, mais pas que. Donc il y a l'essoufflement, perte de goût ou de l'odorat. Des fois, on peut avoir des douleurs articulaires, des douleurs musculaires. Nous collaborons aussi avec donc le service de rhumatologie. Il y a eu un très joli article dans le Lancet qui est sorti récemment, qui a en fait montré un déclenchement des fois de maladies neuropsychiatriques. Donc voilà, c'est un spectre de symptômes que nous pouvons retrouver.
Mais avec un spectre si large, c'est difficile de tenir des statistiques.
Il est difficile de chiffrer le Covid long en lien avec la définition du Covid long. Donc le Covid long aujourd'hui va, dans les symptômes, va de la fatigue et troubles de concentration à la perte de goût et de l'odorat. Donc une personne qui garderait des symptômes de perte de goût et d'odorat de plus de 3 mois pourrait être considérée comme une personne qui a un Covid long. Donc c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de mal au début de chiffrer en fait les personnes qui souffrent de Covid long. On a pu au HUG faire et compléter des études en fait populationnelles qui ont montré que aujourd'hui en tout cas on sait que 15 à 20% des personnes qui avaient été touchées durant les 2 premières vagues garderaient des symptômes chroniques.
Donc, d'ici la fin de la pandémie, si cette pandémie a une fin, on va se retrouver avec une quantité incroyable de Covid long.
Alors, c'est là où je pense l'évolution reste à voir selon les traitements qu'on va avoir, que ce soit dans la phase aiguë ou dans la phase chronique, selon l'évolution de la vaccination et aussi selon l'évolution des variants. Donc aujourd'hui, nous avons une étude en cours qui, justement, étudie la prévalence des symptômes persistants selon les variants. Et ce qu'on retrouve avec BA1 et BA2, par exemple, c'est que potentiellement, moins de personnes développent des symptômes persistants après les premiers 2 variants de Omicron qui étaient BA1 et BA2. On ne sait pas encore pour BA5, qui est le variant qui circule actuellement, parce qu'on n'est pas encore à 3 mois du pic de l'infection qui était en juin. Donc là, on arrive gentiment en septembre et on pourra analyser et puis voir dans la population la prévalence des symptômes persistants. Donc il n'est pas impossible, avec l'effet de la vaccination qui est favorable, les nouveaux traitements qu'on peut avoir en phase aiguë et qu'on espère un jour on aura aussi en phase chronique, et les variants, il n'est pas impossible de voir une évolution plutôt favorable dans l'amélioration, en fait, ou la diminution de la prévalence des symptômes persistants.
Oui, mais il y a différents variants, donc différents Covid longs. Donc, il y a toujours lieu de s'inquiéter.
Oui, potentiellement oui. C'est-à-dire que là, nous avons pu analyser les résultats de persistance des symptômes après BA1 et BA2, comparés aux premiers variants. Donc, nous avons déjà pu publier sur plusieurs en fait résultats sur les premiers variants. Et puis là, On a pu comparer à BA1 et BA2. Après, on s'est dit, OK, ben, en fait, on a un espoir, peut-être avec BA1 et BA2, mais après est venu BA5, on ne sait pas encore. Donc, oui, certainement différents variants, potentiellement différents Covid longs. Est-ce que ça va aller vers le mieux? Est-ce que ça va fluctuer selon le variant? On ne sait pas encore. Par contre, il ne faut pas oublier le rôle de la vaccination qui est plutôt favorable, donc qui peut diminuer le nombre de symptômes dans la phase aiguë et diminuer le risque de Covid long. Et il ne faut pas oublier aussi le rôle des traitements qu'on va avoir dans la phase aiguë et qu'on développe pour la phase chronique.
On va y revenir à la vaccination. Mais ce que je comprends, c'est qu'au niveau des statistiques, il y a encore beaucoup d'incertitudes.
Qu'en est-il des réinfections? En fait, une personne qui avait déjà été infectée et qui maintenant se réinfecte, est-ce que être exposé au virus plusieurs fois augmente le risque d'avoir un Covid long? Qu'en est-il d'un nouveau variant qui pourrait être peut-être ou nous mettre plus à risque d'avoir un Covid long? Il y a encore beaucoup d'incertitudes et c'est pour ça qu'il faut rester humble et puis dire que voilà, on apprend aussi en même temps. Et c'est pour ça que c'est important de continuer à échanger et collaborer avec tous les chercheurs et les médecins.
Super. Et dans tout ce brouillard, sait-on qui est à risque d'un Covid long?
Alors, nous connaissons déjà quelques facteurs de risque du Covid long. En tout cas, les premiers variants, nous avons pu identifier qu'être une femme, par exemple, était associée avec un risque plus élevé de développer un Covid long.
La moitié de l'humanité.
C'est en ligne en fait avec le fait que les femmes sont plus à risque de maladies auto-immunes. Donc voilà, c'est aussi un risque pour le Covid long.
Mais c'est pas un critère suffisant, si?
Il y a deux choses ici. C'est vrai que le nombre de symptômes dans la phase aiguë a été identifié comme directement associé en fait à un risque de développer un Covid long. Donc, le plus on a de symptômes dans la phase aiguë, le plus on a un risque d'avoir un Covid long. On arrive à distinguer deux patterns. Les personnes infectées et traitées en ambulatoire, qui malheureusement peuvent avoir un risque de développer un Covid long, ce sont vraiment la majorité en fait des personnes que nous retrouvons aussi à la consultation et avec de la fatigue, des troubles de concentration. Puis on a l'autre pattern de personnes qui dans la phase aiguë avaient été hospitalisées, passage aux soins intensifs et qui pour ces personnes-là, il y a aussi de la fatigue, il y a des troubles de concentration mais il y a beaucoup plus d'essoufflement.
Bon, là il faut que je vous dise, malgré mes angoisses et mes multiples tests, je crois que je n'ai jamais eu le Covid. Aurais-je pu avoir un Covid asymptomatique? Et pourrais-je souffrir d'un Covid long?
En principe, oui. Après, ça va dépendre vraiment au cas par cas. Et puis c'est là où, encore une fois, les colloques interdisciplinaires vont être intéressants. Une personne qui développe des symptômes, et après on fait une sérologie, on doit juste essayer de comprendre est-ce que les symptômes ont commencé après une période de comptage. Par exemple, on essaye de regarder et puis de refaire comme une enquête d'entourage, presque, même si c'est à quelques semaines ou quelques mois, pour essayer de comprendre, en fait, si, même si la phase aiguë avait été complètement asymptomatique, les symptômes étaient quand même liés à l'infection. Après, encore une fois, le nombre de symptômes est quand même associé avec le risque de développer un Covid long. Donc, quelqu'un vraiment d'asymptomatique a beaucoup moins de risque de développer un Covid long.
Je suis un peu rassurée et je suis vaccinée. Mais certaines personnes ne le sont pas. Se faire vacciner après avoir eu le Covid, ça aurait un sens?
Il y a deux éléments essentiels, est-ce que le vaccin agit en prévention et ou est-ce qu'il agit aussi en termes thérapeutiques? Donc en prévention, on l'a vu, on sait que le vaccin est efficace, a été efficace jusqu'à présent et puis on espère pouvoir développer des vaccins encore plus efficaces. Le vaccin réduit donc le nombre de symptômes dans la phase aiguë et réduit le risque de développer un post-Covid. Après, une fois qu'on a un post-Covid, est-ce que se faire vacciner va réduire ou aggraver les symptômes? Ça, c'était une vraie question que nous avions aussi posée et que plusieurs chercheurs ont aussi pu poser. Aujourd'hui, on peut avoir une amélioration chez un tiers des personnes. En tout cas, c'est ce que nos résultats avaient montré. Il y avait 5% à peu près des personnes qui avaient une aggravation de leurs symptômes et puis la plupart, en fait, n'avaient pas de modification dans leurs symptômes. Donc, ce n'est pas une thérapie. On ne peut pas proposer le vaccin comme traitement thérapeutique, malheureusement, du post-Covid. Covid, et a priori, même donc les personnes dont les symptômes s'améliorent ou s'aggravent, ça reste quand même transitoire, donc ce n'est pas un traitement.
Et un vrai traitement contre le Covid long?
Le Covid long, en général, aujourd'hui, on n'a pas un traitement médicamenteux pour le Covid long. Mais nous avons quand même des solutions et des traitements pour les symptômes, ou en tout cas pour réduire l'impact des symptômes. Donc on peut quand même réduire l'impact de ces symptômes avec une adaptation du quotidien, avec l'ergothérapie, la physiothérapie, et ou des fois, s'il y a des troubles du sommeil, on va aller chercher pourquoi, et puis si on trouve la raison, on la traite, si on trouve pas la raison, qu'on a des symptômes, on va aussi essayer de réduire l'impact des symptômes. Donc on a quand même quelques solutions qu'on va discuter avec la patiente ou le patient et avoir cette décision partagée.
Ce n'est pas la réponse que j'attendais, que j'espérais. Sérieux, il n'y a rien de mieux.
Après, on a grand espoir parce que nous avons commencé d'ailleurs un essai clinique au HUG. Donc l'équipe du professeur Idriss Guestous dans le service de médecine de premier recours étudie l'efficacité d'un traitement. Donc c'est un anticorps monoclonal, le temelimab, dont en fait l'effet avait été déjà étudié dans d'autres maladies neurologiques. Et puis là, on essaye de voir si ce traitement pourrait être efficace pour les symptômes neurocognitifs post-Covid, y compris troubles de concentration et fatigue.
Ce que je comprends, c'est qu'avec ce Covid long et le Covid tout court, nous assistons à la science qui se construit en direct. Jamais la recherche n'aura autant accéléré. Avec un partage de connaissances, le développement de traitements et de vaccins. Ça me laisse admirative et perplexe peut-être aussi face à d'autres crises quand je pense à l'urgence climatique.
Pourquoi mon orteil me fait si mal quand je le cogne? Pourquoi je dors? Pourquoi je rêve? Qui a inventé la seconde? Pourquoi le glaçon flotte dans mon verre? Où est la lumière quand j'éteins ma lampe? Mon ficus essaie-t-il de me parler?
Toute la communauté de microsciences a joint ses compétences et ses connaissances pour vous concocter cet épisode. Mathieu Ramsauer, réalisateur, praticien du son. Camille Dupont-Lahit, coproductrice et neurochirurgienne des thématiques scientifiques. Et Jérôme Nussbaum, à l'habillage, thérapeute musical. Moi, c'est Ouma Kamis, journaliste scientifique, ex-microbiologiste qui parle dans un micro. Si cet épisode vous plaît, partagez-le sur les réseaux sociaux et notez-le sur les plateformes de streaming audio Apple Podcasts, PlayRTS et Spotify. Et si vous avez des questions, écrivez-moi à microscience@rts.ch, microscience en un seul mot et au pluriel. Je vous répondrai soit par écrit, soit dans un prochain épisode. Mais cela dit, l'OMS a rebaptisé le Covid long en syndrome post-Covid. Pourquoi ?
Il s'agit surtout de différencier le fait qu'il s'agit de séquelles du virus et non pas du virus qui est activement en train de se répliquer et d'infecter les gens. Donc c'est pour aussi passer le message que les gens ne sont pas contagieux, voilà, qu'ils ne sont pas vraiment encore dans cette phase aiguë et qu'il s'agit de séquelles post-Covid.